Quand j'étais petit, j'entendais le bruit qui résonnait dans toute la ville. C'était comme un cri.
Pour conduire une voiture à plus de 300 km/h, ils doivent presque avoir un instinct de pilote de chasse.
Ça me rappelle tellement de bons souvenirs, ça, à l'époque de Jacques Villeneuve. Je l'avais suivi, j'étais au sport à l'époque à TVA, puis c'est moi qui avais la charge de m'occuper de la Formule 1. J'aimais tout ça, moi, tu penses?
Ben justement, ce documentaire-là me fait beaucoup penser à Jacques Villeneuve, ses époques. C'était en 1997 qu'il avait remporté le championnat de Formule 1. Effectivement, Formula One, pilote de leur destin, ou en anglais, ça s'appelle Drive to Survive. C'est une série incroyable. C'est une incursion dans le monde de la Formule 1. Pas nécessairement chez les pilotes qui gagnent, mais mettons ceux qui se tiennent dans les 10 premières positions. On le sait, François, la Formule 1 cherche à se rajeunir, à trouver des nouveaux publics. On cherche aussi à s'ancrer dans un milieu qui est beaucoup plus populaire que celui de Bernie Ecclestone, celui qu'il avait créé. Donc, Liberty Media, qui est propriétaire, a ouvert ses portes du milieu de la F1 à des caméras et à des équipes de tournage pendant la saison 2018. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vit les hauts et les bas de la Formule 1. C'est extrêmement rare parce que habituellement, il y a beaucoup de secrets dans les écuries, dans les différentes écuries. Il y a des trucs qu'on ne peut pas révéler. Donc, d'amener des caméras et des Kodak dans les paddocks, ce n'est pas bienvenu habituellement. Alors, et on le sait beaucoup, il y a énormément de surprises dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de déceptions. Ça prend de l'argent pour réussir. Et on a accès, avec cette série-là, aux commentaires de l'écurie, aux commentaires des mécaniciens avant, pendant, après les courses. On met le focus sur des histoires de pilotes, surtout quand ils sont de passage dans leur ville d'origine, comme par exemple, il y a Daniel Ricciardo, qui était à Melbourne, en Australie, pour l'équipe Red Bull. Il y a Carlos Sainz qui, lui, a une histoire avec Fernando Alonso. Donc, on est en Espagne, on compare les deux pilotes. On va au Grand Prix de Monaco. Il y a l'écurie américaine Haas, qui avait deux pilotes sur la ligne de départ. Ça, c'est vraiment une histoire incroyable. Les deux pilotes étaient en position 4 et 5 sur la ligne de départ. Et ce qu'on voit pendant l'épisode, c'est que les deux voitures brisent à tour de rôle parce que, justement, les roues ont été mal vissées par l'équipe de mécano lorsqu'ils font des arrêts au puits. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que c'est pour une équipe américaine qui est montante comme ça, qui a gradué dans les points d'année en année. Eux se voient grandir dans ce milieu-là. Ils ont une chance de marquer des points. Les deux pilotes ont des chances de marquer des points. Et justement, ils doivent arrêter la course parce qu'il y a eu des erreurs parmi l'équipe. Et il y a un épisode aussi qui va porter sur Lawrence et Lance Stroll, justement quand il y a eu l'achat de l'écurie Force India, qui est devenue Racing Point. Donc justement, on parle de cet achat-là et tu sais, on commence l'émission en disant est-ce que Lance Stroll va suivre son père? Nous, on connaît la suite des événements, mais c'est quand même le fun parce que ça, on crée une certaine tension pendant les émissions. Et puis, même si on connaît la suite des choses, c'est hyper intéressant. Justement, comme disait mon collègue Jérémy Rainville, c'est un 24CH de la F1. Et j'ai l'impression qu'on voit vraiment des choses qu'on ne verrait pas ailleurs. Et il y a des écuries qui ont refusé. Mercedes, entre autres, refusé de participer au tournage de cette série. Il y a Ferrari qui a fini par accepter parce qu'on est en train de tourner une deuxième saison. Donc, eux, ils ont accepté d'embarquer dans la deuxième saison. Et on essaie de convaincre ceux et, les écuries qui ont dit non depuis le départ. Ouais.
Ça va être extrêmement intéressant. L'autre sujet que tu veux nous parler, t'es allé voir le tournage du film Merci pour tout avec Magali Lépine Blondeau et Julie Perrault.
Oui, Merci pour tout qui raconte l'histoire d'un road trip que deux sœurs vont entreprendre à la suite du décès de leur père. Les rôles titres, quand on parle de Magali Lépine Blondeau et de Julie Perrault, c'est la première fois qu'elles ont la tête d'affiche d'un film. C'est une réalisation de Louise Archambault qui, elle, a signé la série Trop qu'on a pu voir à Radio-Canada, mais aussi le film Gabriel. Et les textes sont signés par Isabelle Langlois qui, elle, écrit présentement la série qu'on voit à la télé, Lâcher prise, avec Sylvie Léonard et Sophie Cadieu. Mais elle avait aussi signé Mauvais karma, Rumeur. Alors, je suis allée rencontrer Magali Lépine-Blondeau et Julie Perrault. Elles étaient vraiment, vraiment contentes de partager l'écran. Elles ont des caractères bien différents. Julie Perrault, elle est très entreprenante.
Ah oui.
Elle a le sens de l'organisation. On les écoute.
Magali a dit, moi, je conduis pas. Fait que là, c'est sûr que c'est toi qui conduis. Déjà là, on était en conflit.
Non, au contraire. Toi, ta spécialité, c'est de prendre les commandes de toutes.
C'est parfait.
C'est une base de bécosse, Julie Perrault.
Ah oui, mais moi, j'adore ça parce que j'ai juste à me laisser porter. Je me laisse guider.
Elle est en journée pédagogique.
Oui.
Puis moi, ben là, je dirige l'école au complet. Directrice d'école. Mais non, mais sérieusement, quand le projet est arrivé, c'est sûr que c'est accueilli avec beaucoup de joie puis de plaisir de travailler avec Magali, avec Louise, c'est sûr.
Alors, comme je le disais, c'est la première fois qu'elles portent un film sur leurs épaules, qu'elles vont être des têtes d'affiche au cinéma. Et je leur ai demandé si c'était vraiment important pour elles.
La plus grande nouvelle là-dedans, c'est juste que les personnages sont étoffés.
Ouais.
Et puis qu'on a de quoi se mettre sous la dent, puis qu'on a, tu sais, je pense pas, ben en tout cas, je pense pas qu'on pense au fait que si on est des têtes d'affiche, je pense plus qu'on regarde ce qu'on peut apporter au projet, puis la façon de le défendre, puis d'être inspiré par l'écriture d'Isabelle. En tout cas, pour ma part, c'est plus comme ça que je l'ai abordé là.
Non, moi je l'ai vraiment abordé comme une tête d'affiche.
Toi, t'es plus contente que Julie.
Non, mais c'est pas ça. Mais par contre, non, mais moi, je suis très heureuse de faire du cinéma. J'avoue que ça fait longtemps que j'espérais avoir un rôle substantiel au cinéma. Ça reste un médium que j'adore. Le rythme de tournage est différent, puis la façon d'aborder le récit, les tout-sis, tu sais, fait que. Mais c'est vrai qu'on accorde un petit peu plus de temps aux choses pour peaufiner à la fois le jeu, mais aussi à la technique, tu sais, les plans, réfléchir au récit de façon différente.
Et tu sais, moi, je trouve que cette combinaison-là, elle est vraiment intéressante. Bon, tu prends Louise Archambault, tu prends les deux filles, Julie et Magali, tu prends les textes d'Isabelle Langlois qui sont toujours très, très rythmés, qui sont brillants, qui sont drôles. Il y a une compréhension de la femme en arrière des textes d'Isabelle Langlois. Et pour une actrice, c'est vraiment un cadeau de recevoir des textes comme ceux-là, mais il faut travailler fort. On écoute Magali Lépine-Blondeau.
Ben, c'est-à-dire que ce qu'on aime d'Isabelle, justement, c'est le dialogue truculent, le fait que les personnages aient toujours beaucoup de répartie, tu sais, qu'il y a un vocabulaire cinglant. Ça permet pas, ça ne pardonne pas le repos. C'est des textes exigeants. Ça a l'exigence de ses qualités aussi, là, tu sais. Mais donc, ça nécessite chez nous comme une machine bien huilée, là, tu sais. C'est ça. Ça permet pas qu'on prenne des petites pauses puis qu'on respire, là, tu sais, pour bien la faire passer. Mm-hmm. C'est un rythme qui s'impose de lui-même. Puis parfois, c'est à nous de le suivre.
Là, je la reconnais, là, parce qu'elle est assez intense, elle, comme comédienne. Là, je veux dire, pas comme personne, comme comédienne.
Ouais,
c'est une excellente comédienne qui est toujours attachée à ses personnages.
Les metteurs en scène et les réalisateurs qui ont travaillé avec Magali Lépine-Blondeau disent toujours que c'est un Stradivarius, que c'est vraiment une actrice qui répond très, très bien aux commentaires, aux commandes, qu'on est capable d'aller chercher des nuances. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ça va sortir d'ailleurs en 2019. Donc, c'est à suivre. Puis là, ben, les filles venaient de quitter, elles s'en vont pour les îles de la Madeleine pour justement faire leur partie road trip du tournage.
Ah oui. Mais je m'ennuie d'elle dans le district 31, si tu savais. Là.
Ben, je pense pas qu'elle va revenir. Je pense qu'elle est morte.
Mais je pense qu'elle est morte pas mal dans son rôle, pas elle.
Oui.
Quand même. Merci beaucoup. On se retrouve un petit peu plus tard.